Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous allons terminer, enfin, cette très importante série concernant la sainteté. Chers amis, tout au long de ces CD, je me suis efforcé d'insister sur un aspect différent de celui qui est si souvent présenté dans les ouvrages destinés à motiver le chrétien à l'obéissance. En effet, cela peut conduire, comme c'est hélas le cas pour beaucoup, à considérer l'obéissance comme étant une façon de rembourser Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. J'ai appelé cette erreur, car c'en est une, l'éthique du débiteur. Quand chacun de nos actes, et je parle de nos actes d'obéissance, est suscité et rendu possible par la manifestation permanente de la grâce à venir, il ne peut certainement pas être question de remboursement à Dieu de notre part. Pas plus qu'il ne peut être question d'acquittement de notre dette par rapport à la grâce de Dieu. Bien au contraire, chaque inspiration augmente notre dette à l'égard de la grâce. Et Dieu soit loué, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Alléluia. Jamais je ne serai le bienfaiteur de Dieu. Il restera toujours le donateur inépuisable. Et il faut qu'il en soit ainsi, car la gloire, elle revient uniquement à celui qui donne. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez donc en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Servir Dieu, ce n'est pas le rembourser. Oh non! Je répète, servir Dieu, ce n'est pas d'essayer de le rembourser, mais plutôt de recevoir de sa part. À chaque instant qui passe, tandis que nous sommes au bénéfice de la manifestation permanente de la grâce à venir, nous accumulons sans cesse une dette glorieuse. Par conséquent, le lieu privilégié de l'expression de notre gratitude est immense. Chaque fois que nous sommes tributaires de la manifestation de la grâce à venir, c'est le réservoir de la grâce passée qui augmente de volume. La taille de ce réservoir, c'est un motif de joyeuse gratitude. Aussi notre reconnaissance devrait-elle s'accroître un peu plus chaque jour. Et c'est pourquoi, au moment de conclure et en partant, on peut dire en portant le regard en arrière, sur tellement de grâces passées, eh bien je me sens appelé à rendre hommage au lieu de l'expression de la gratitude dans la vie chrétienne. Par certains côtés, la gratitude favorise l'obéissance au Christ. Par exemple, un esprit de gratitude est totalement incompatible avec certaines manifestations du péché. C'est, à mon avis, la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit: il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez-vous des prières plutôt de reconnaissance à Dieu. Oui, adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu, est-il dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. La gratitude est une expression d'humilité et de joie en réponse à la bonne manifestation par quelqu'un qui a souhaité nous faire du bien. Ces sentiments ne peuvent cohabiter dans notre cœur avec des attitudes grossières, déplaisantes ou méchantes. Par conséquent, en cultivant un cœur reconnaissant, nous laissons peu de place au péché de cette nature. Mais ce n'est pas tout. Il y a un rapport déterminant entre le regard de gratitude tourné vers l'arrière pour accueillir la grâce passée et le regard de foi qui est tourné vers l'avant pour accueillir la grâce à venir. Tous les deux sont des joies entremêlées qui se renforcent mutuellement. Tandis que la gratitude se délecte avec joie des bienfaits de la grâce passée, la foi s'en remet avec joie aux bienfaits de la grâce à venir. Par conséquent, quand la gratitude pour la grâce manifestée par Dieu dans le passé est forte, eh bien le message envoyé, c'est que Dieu est suprêmement digne de confiance dans l'avenir en raison de ce qu'il a accompli dans le passé. Et c'est ainsi que la foi se trouve renforcée lorsque nous éprouvons une vive gratitude envers Dieu, envers notre Dieu, envers notre Sauveur et Seigneur, pour avoir été pleinement digne de confiance dans le passé. Dans d'autres sens, quand la foi dans la grâce de Dieu à venir est très forte, eh bien le message envoyé, c'est qu'un tel Dieu ne fait vraiment pas d'erreur et que donc tout ce qu'il a accompli dans le passé s'inscrit dans un dessein parfait et peut être évoqué avec gratitude. C'est donc ainsi que la gratitude se retrouve renforcée lorsque nous éprouvons une foi vivante dans la grâce de Dieu à venir. Assurément, seul un cœur habité d'une foi dans la grâce à venir peut vraiment suivre cette exhortation de l'apôtre Paul qui dit « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 5, verset 20. En effet, on ne peut regarder en arrière en éprouvant de la gratitude pour toute chose que si l'on fait vraiment confiance à Dieu pour changer les tragédies passées en conclusions futures. Et c'est cette interaction entre la foi tournée vers l'avenir et la gratitude tournée vers le passé qui empêche la gratitude de dégénérer en ce que j'appelle l'éthique du débiteur. La gratitude pour la grâce passée répète constamment à la foi. Elle donc, vous avez compris, la gratitude pour la grâce passée répète constamment à la foi. Sois fort, et ne doute surtout pas un instant que Dieu manifestera à l'avenir autant de grâce que je lui ai connue dans le passé. Et la foi dans la grâce à venir répète constamment à la gratitude, la grâce elle n'est pas épuisée. Et nous devons passer toute notre obéissance sur l'assurance de cette grâce à venir. Détends-toi donc et exulte à la pensée de la fête solennelle. Par la grâce de Dieu, je me chargerai de l'obéissance qui nous sera demandée demain. Reprenons les paroles de l'apôtre Paul. Je rappelle que tout cela avait pour but de susciter l'amour qui glorifie Dieu. C'est le fruit de la foi dans la grâce de Dieu à venir. Le but de cet avertissement, c'est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. À présent, au moment de conclure, je souhaite simplement insister sur la plénitude et la durée infinie de la grâce à venir qui entretient notre joie et notre obéissance jusqu'à la fin. En Éphésiens, chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul parle de l'extraordinaire richesse de la grâce de Dieu. Il veut dire par là que l'excédent qui se déverse en permanence de la plénitude de Dieu, elle-même inépuisable et en constante régénération, est incommensurable. La grâce, elle n'a pas de fin, car le puits duquel elle se déverse n'a pas de fond. Je trouve absolument extraordinaire que Dieu nous ait ressuscités avec le Christ dans le seul but de nous prodiguer l'éternelle richesse de sa grâce. Laissons ce dessein divin imprégner notre cœur. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alléluia. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7. Donc, on peut répéter ce verset d'Éphésiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Il l'a fait, Dieu, afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Nous avons donc là deux éléments surprenants. Le premier, c'est que notre salut a pour but que Dieu nous prodigue des richesses de sa grâce. Le second, c'est qu'il va y consacrer l'éternité. Voilà donc une pensée prodigieuse. Dieu nous a donné la vie et il nous a établis en Christ afin de faire de nous les bénéficiaires de sa bonté éternelle en vertu de la richesse infinie de sa grâce. Or, ce n'est pas parce que nous le méritons, surtout pas. Bien au contraire, c'est pour démontrer la nature incommensurable de son mérite. La grâce ne serait pas grâce s'il s'agissait d'une réponse à nos capacités humaines. Elle est véritablement la grâce précisément parce qu'elle met en évidence les capacités débordantes de la bonté de Dieu. La grâce et éternel, parce qu'il va falloir tout ce temps à Dieu pour reprendre sur nous les réserves inépuisables, pour les répandre en quelque sorte sur nous, pour les répandre, c'est ça le mot, sur nous, les réserves inépuisables de sa grande bonté. Donc la grâce est gratuite parce que Dieu ne serait pas le Dieu infini et souverain qu'il est toujours s'il était limité, par exemple, par quoi que ce soit d'extérieur à lui. Cela montre pourquoi la grâce à venir occupe une place absolument essentielle dans le merveilleux dessein que Dieu a décidé de mettre en œuvre à sa propre gloire et pour le contentement de ses enfants que nous sommes. Dans notre expérience, la grâce active de Dieu concerne principalement l'avenir. La grâce que nous avons déjà expérimentée de la part de Dieu, elle est infiniment petite comparée à la grâce à venir que nous allons connaître entre maintenant et l'éternité. Je répète, la grâce que nous avons déjà expérimentée de la part de Dieu, elle est infiniment petite comparée à la grâce à venir que nous allons connaître entre maintenant et l'éternité. Et il en sera toujours ainsi, dans la mesure où une durée limitée dans le temps, même s'il s'agit de millions d'années, est forcément très courte par rapport à l'infini de l'avenir. C'est donc là un trésor auquel il convient d'attacher une très grande valeur. Et c'est précisément ce que fait la foi dans la grâce à venir. Elle reconnaît toute la valeur de l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Or voilà que l'incrédulité tente d'accomplir son œuvre pernicieuse. N'est-il pas juste de placer notre confiance dans une telle promesse? Bien sûr que oui. Et nous devrions combattre chaque once d'incrédulité de toute notre force. Mes chers amis, terminons en rappelant la logique implacable du ciel. Dieu n'aurait pas pu en faire davantage pour prouver sa détermination à répandre sur nous l'extraordinaire richesse de sa grâce. Romains, chapitre 8, verset 32. Et c'est le verset qui affirme magistralement cette volonté de Dieu que rien, absolument rien, ne peut contrarier. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout, absolument tout, avec lui? L'impossible a déjà été accompli. Le don ineffable du Fils de Dieu, condamné pour effacer notre péché et nous acquérir la justice. Par conséquent, rien, absolument rien, ne peut empêcher Dieu de nous donner tout avec lui. Voici un hommage remarquable à ce magnifique verset qui est écrit par John Flavel, un pasteur puritain qui a vécu il y a plus de 200 ans. Il exprime l'essence et la certitude de la grâce à venir. Et voici ce qu'il dit. Il dit, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Comment pourrait-on imaginer que après cela, Dieu pourrait refuser des bénédictions spirituelles ou temporelles à ses enfants? Comment pourrait-il ne pas les appeler efficacement, les justifier gratuitement, les sanctifier parfaitement et les glorifier éternellement? Comment pourrait-il pas les revêtir en quelque sorte? Je répète, comment pourrait-il pas les revêtir, les nourrir, les protéger et les délivrer? Assurément, il n'a pas voulu épargner à son propre Fils un seul coup, une seule larme, un seul gémissement, un seul soupir, un seul motif de douleur. On ne peut imaginer un instant qu'il puisse un jour, après tout cela, priver ou refuser à ses enfants pour qui tout cela a été enduré. Je répète, pour qui, pour nous tous, tout cela était enduré, la moindre miséricorde, la moindre consolation, le moindre privilège d'ordre spirituel ou temporel qui soit bon pour eux, c'est-à-dire pour nous tous. Aujourd'hui encore, c'est ma prière pour moi-même et pour vous, mes chers auditeurs. Mais avant de faire cette prière, eh bien j'aimerais tout simplement vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous. Écoutez bien. Rien n'est plus doux que l'amour. Rien n'est plus fort, plus élevé, plus étendu, plus délicieux. Il n'est rien de plus parfait, ni de meilleur au ciel et sur la terre, parce que l'amour est né de Dieu et qu'il ne peut se reposer que en Dieu au-dessus de toutes les créatures. Celui qui aime court, il vole, il est dans la joie, il est libre et rien ne l'arrête. Il donne tout pour posséder tout et il possède tout en toutes choses parce que au-dessus de toutes choses, il se repose dans le seul être souverain à qui, de qui Dieu bien procède et découle. Tous les biens procèdent et découlent de notre souverain bien-aimé. Il ne regarde pas aux dons, mais il s'élève au-dessus de tous les biens jusqu'à celui qui donne. L'amour, souvent, ne connaît point de mesure. Mais comme l'eau qui bouillonne, il déborde de toutes parts. Rien ne lui pèse, rien ne lui coûte. Il tente plus qu'il ne peut. Jamais il ne prétexte l'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et absolument tout permis. Et à cause de cela, il peut tout et il accomplit beaucoup de choses qui fatigue et qui épuise vainement celui qui n'aime point. L'amour veille sans cesse, dans le sommeil même, il ne dort point. Aucune fatigue ne le lasse, aucun lien ne l'appesantit, aucune frayeur ne le trouble, mais tel qu'une flamme vive et pénétrante, il s'élance vers le ciel et s'ouvre un surpassage à travers tous les obstacles. Si quelqu'un m'aime, il entend ce que dit cette voix. L'ardeur même d'une âme embrassée s'élève jusqu'à Dieu comme un grand cri. Mon Dieu, mon amour, vous êtes toute à moi et je suis toute à vous. Élevez-moi dans l'amour afin que j'apprenne à goûter au fond de mon cœur combien il est doux d'aimer et de se fondre et de se perdre dans l'amour. Que l'amour me ravisse et m'élève au-dessus de moi-même pour rester fidèle à mon Dieu et à mon Sauveur pour l'éternité. Amen. Et maintenant, prions tout simplement pour terminer. J'ai dit donc, rappelez-vous, aujourd'hui, c'est ma prière pour moi-même et pour vous, mes très chers auditeurs et auditrices. Prions. Ô Seigneur, je crois. Viens au secours de ma misérable incrédulité. Quelle vie, oui, quelle vie, débarrassée des murmures et des récriminations et pleine de risques de joie et d'amour. Ah oui, si seulement je pouvais croire tout cela. Ô Père, je désire vivre dans cette réalité-là. Aide-moi. Oh, ne m'épargne rien qui puisse me procurer cette glorieuse confiance. Et à présent, j'ajoute, apprends-moi à combattre l'inverse, ô Seigneur. Fais de moi un ennemi implacable de toute incrédulité qui puisse exister dans mon propre cœur. Enseigne-moi d'autres aptitudes pour le combat et notamment pour le maniement de l'épée de l'esprit afin que je puisse mettre à mort les dragons du mensonge et du doute qui habitent ma propre âme. S'il existe une façon de vivre plus pleinement par la foi dans cette invincible grâce à venir, je veux connaître cette vie-là. Ô Seigneur, nous voulons nous saisir de la logique du ciel et nous défaire de tout ce qui nous entrave pour entrer de plein pied dans la liberté de l'amour, du risque, de la souffrance et de la mort pour la gloire du Christ et le bien de tous les hommes. J'ai le désir de faire plus profondément l'expérience de la vie par la foi dans la grâce à venir et d'amener avec moi le plus grand nombre possible. Ma prière, c'est que vous désirez tous qui écoutez ou qui avez écouté ces CD, ces études, de m'accompagner sur le chemin de l'éternité. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et il est de mon devoir de vous aimer également. Et maintenant, je vous enlace. Et je vous dis sérieusement, avec tout mon cœur, oui, je vous aime. Je vous enlace. Je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, je veux essayer de mettre quelque chose d'un lointain passé, un peu moins loin cette fois-ci, 1965. Ce sont les Gédéons, c'est à la Chaux-de-Fonds, qu'ils avaient chanté en ce temps-là, en Suisse. Essayons si ça fonctionne. Espérons.
J'aimerais savoir pourquoi les yeux de mon enfant ressemblent tant au mien. J'aimerais savoir comment les pétales de rose s'ouvrent chaque matin. J'aimerais savoir pourquoi, quand on enterre un grain, il devient un épi. Comment une chenille devient en quelques heures un papillon joli. Comment tous les grands fleuves descendent à la mer sans jamais la remplir. Comment les hirondelles, sans montrer les boussoles, savent qu'elles vont partir. J'aimerais savoir comment, lors des grandes marées, la mer est déchaînée. Comment ces tonnes d'eau, comme un fétu de paille, sont alors soulevées. Je sais seulement. Pourquoi mon corps qui est si jeune vieillira lentement. J'aimerais bien savoir quel est le mécanisme de l'horloge du temps. Pourquoi la vie sur la petite terre au fond de l'univers. Au milieu des étoiles, elle n'est pas plus grosse qu'un simple grain de poussière. Je ne sais pas pourquoi quand le vent souffle fort, mais je ne le vois pas. Je ne sais pas comment se formera la glace qui craque sous mes pas. La route des nuages est toujours bien tracée pour déverser la pluie. Sans aucune distinction sur les bons, les méchants, toujours le soleil, lui. Je sais seulement que Dieu est grand. Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui. Dieu est grand. Je sais seulement que Dieu est grand. Il tient l'univers dans sa main, oui, Dieu est grand. La tendre vallée.
Pour la pluie,
pour la merveille,
dire au monde, partout à la ronde, que Jésus est mon roi. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que Christ est tout pour moi. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que oui, il reviendra. Pour moi, Jésus est le roi des rois. Roi des rois. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que Jésus est mon roi. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que Christ est tout pour moi. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que oui, il reviendra. Pour moi, Jésus est le roi des rois. Roi des rois. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que Jésus est mon roi. Je veux dire au monde, partout à la ronde, que Christ est tout pour moi.
Pour t'adorer.